meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies, is and Gentlemen, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Écoutez, comment que vous allez? Ça va bien? C'est la causerie, c'est dimanche 22h, comme quasi tous les dimanches. La causerie est là sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org, partout dans le monde entier et dans l'univers, parce que les ondes elles s'enfuient. Enfin voilà. Ce soir, on a Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Fab.
Qui a fait l'ouverture. C'est moi.
Tout en splendeur.
Et on reçoit Anne. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Alors on vous dira après pourquoi elle est là, tout ça. Je vais d'abord vous dire, si vous voulez nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules et que ça va bien. Si vous voulez voir le blog, c'est à...
C'est sur blogs, donc au pluriel, on l'a fait toutes les semaines, mais c'est pas grave. Donc blogs.radiocanu.org/lacausserie, où vous allez sur le site internet de Radio Canu. Vous, il y a un petit onglet qui est le blog des émissions et vous y trouverez la causerie. Et on a aussi un espace, tu ne dis pas la marque, un réseau social.
Je ne dis pas Facebook. D'accord, alors je ne le dis pas.
C'est ça, tu ne le dis pas. Et donc on y est, la causerie est dessus, vous y retrouvez juste à chaque fois, toutes les semaines, le blog, enfin le replay, je ne sais pas comment on appelle ça, le podcast.
Et puis vous pouvez partager si vous nous aimez.
C'est ça.
Mais vous pouvez aussi partager par mail, tout ce que vous voulez, quoi.
Oui.
Voilà. Et donc ce soir, une émission un peu spéciale, parce qu'on a une invitée, et ben, je vais laisser Jean-Yves pour démarrer cette...
C'est ça. Alors ce soir, on a Anne. Alors Anne, on t'a déjà reçu, je vais juste resituer vite fait. Tu étais venue avec l'Institut Égaligone,
ouais.
Si c'est bien comme ça qu'on l'appelle. C'était la causerie 119, c'était en avril...
199, mais tu étais pas...
J'ai dit quoi ?
119.
Oh pardon. 199. Et en fait, c'était à cette occasion-là donc qu'on s'est rencontrés, et c'était à cette époque-là aussi que tu nous as dit que tu faisais un master, tout ça.
Mm-hmm.
Et qu'on te proposait, ben, qu'on se retrouverait plus tard. C'est donc aujourd'hui. Pour en parler, donc, ce que tu peux peut-être faire, c'est un petit peu te resituer, tout ça.
Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Anne, j'ai 25 ans. Je m'identifie comme femme, ça, c'est important de le signaler. Et donc, sinon dans la vie, qu'est-ce que j'aime bien faire ? J'aime bien lire notamment la série A Song of Ice and Fire, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a été adaptée en série sous le nom de Game of Thrones. Et sinon, comme autre passion, je suis féministe, c'est une passion. Et donc en fait, on s'était rencontrés parce que j'étais venue avec ma tutrice de stage et ma collègue de l'Institut Égaligone, qui est une association lyonnaise qui s'intéresse à l'éducation égalitaire, on va dire, pour simplifier. Et à ce moment-là, je vous avais parlé du fait que j'étais en train de faire un master qui s'appelle Égal à Lyon 2 et que je faisais une recherche. Et c'était ça qui vous avait intéressé, il me semble, à la base.
Ouais, surtout que tu avais bien présenté le truc. Non, je vais faire un mémoire. Et on s'est dit, bah cool, on pourra présenter le mémoire à la radio.
Oui.
Parce que c'est un peu ce que tu vas faire ce soir.
Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Je vais essayer d'expliquer ce que c'était ma recherche et de vous intéresser à ça en tant qu'auditeur-auditrice.
C'est bien dit.
Ben ouais. Merci.
On peut peut-être déjà donner le titre de ton mémoire ou
oui.
Je sais pas si on vous dit le titre. Si on dit le titre.
On dit le titre.
Oui.
Ouais, on dit un titre. Non, mais on appelle ça un titre, quoi.
Oui, c'est un titre.
Eh ben, ok.
Alors, le titre, c'est « On ne n'est pas engagé, on le devient ». Comment vient-on à s'engager pour l'égalité de genre dans le milieu associatif et militant, le milieu universitaire et sur Internet ? Voilà. Les noms des mémoires sont souvent assez longs.
Ouais, puis il ne faut pas copier les autres, donc on rajoute des mots à force pour que ça rentre. T'as le premier, il était tranquille. Par contre, alors, juste quand même, je le signale parce que tu as la gentillesse de le faire et c'était pas, t'es pas obligé. On va le mettre en ligne sur ton mémoire, en fait, sur le blog de l'émission. Donc, à l'issue de l'émission, demain, quand on mettra l'émission en ligne aussi, on mettra ton mémoire, il sera accessible et on demande aux gens, évidemment, de ne pas copier ce mémoire pour leur future mémoire et
si
de
possible.
Te contacter s'ils ont des questions et tout sera à l'intérieur pour le faire.
Voilà, c'est ça.
Je l'ai bien dit.
Oui, tout à fait.
Bon, on est bon. Et donc, du coup, alors, comment tu t'es venu à avoir cette idée-là ? Enfin, comment c'est venu le fait de faire un mémoire là-dessus ?
Bah alors déjà, bon, il faut dire ce qu'il y a. J'étais un peu obligée de faire un mémoire puisque j'étais en master 2 sur le sujet des études de genre et on nous demande de faire un mémoire de fin de master. On nous dit de choisir un sujet qui nous préoccupe, qui nous intéresse, parce que c'est vrai qu'on va travailler dessus pendant assez longtemps, donc autant que ça nous passionne. Et la question que je me posais depuis un moment pour moi, c'était en fait comment est-ce que ça se faisait que je sois devenue féministe ? Comment ça se faisait que je me sois un jour intéressée aux questions de genre, à l'égalité entre les femmes et les hommes, les personnes trans, etc. Pourquoi en fait, pourquoi moi ? Pourquoi d'autres personnes s'y intéressaient pas ? Et en fait, je crois que j'avais envie un peu de... Enfin, moi, j'avais du mal à expliquer pourquoi moi, j'en étais venue à ça. Alors, je me suis dit peut-être qu'une façon peut-être de mieux comprendre pour moi, c'est de prendre un peu de hauteur et de demander à d'autres personnes comment c'est arrivé. Alors, bien sûr, en faisant ça sous forme de recherche, c'est-à-dire faire des entretiens, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'était de voir comment est-ce que les gens en sont venus à être engagés pour ça, avec peut-être en espérant trouver des tendances, s'il y en avait, s'il y avait des profils similaires entre les personnes, voilà, s'il y avait des sortes de leviers ou de freins au fait de s'engager pour ça. Alors le but, c'était pas forcément de mieux comprendre ça uniquement pour moi, mais à la limite, je me disais que si on comprenait mieux en général comment d'autres personnes en venaient à s'engager pour l'égalité de genre, ben ça signifiait que peut-être on pourrait peut-être... je sais pas, peut-être déclencher ça aussi chez certaines personnes ou aider au déclenchement ou alors voilà, ce genre de choses. C'était pas très clair dans ma tête, mais voilà.
Et donc, moi, je vais tout de suite poser la question le genre ? Ah, parce
oui.
Que il faut peut-être définir ce dont on parle quand même. Parce
oui.
Que, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont des fantasmes sur ces trucs-là.
Oui.
Les études de genre, le genre, tout ça. Alors, c'est quoi le genre ? En deux mots ?
En deux mots. Alors, pas en deux mots. Alors déjà, je reprécise quand même, j'étais jusqu'à présent en master en études genre. C'est un master qui s'appelle EGALES, E-G-A-L-E-S, qui est à Lyon 2, qui signifie donc études de genre et actions liées à l'égalité dans la société. C'est un acronyme pour cacher le mot genre, à cause du fait que justement il fait débat. Qu'est-ce que c'est le genre ? Alors je vais être obligée, je suis désolée, de ressortir une définition un peu bateau en essayant de l'expliquer un peu, parce que ce serait mieux quand même. Donc le genre, c'est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, c'est-à-dire hommes, femmes, et les valeurs et les représentations qui leur sont associées, c'est-à-dire masculin, féminin. Donc cette définition dit simplement que la société a créé deux groupes, hommes-femmes, avec hommes associés au masculin et femmes associées au féminin, et donc a créé ces groupes et ce qu'ils contiennent, et les a hiérarchisés entre eux. Il y a un groupe qui est vu comme supérieur à l'autre, ou qui est vu comme meilleur ou préférable, et l'autre qui est vu comme moins bien. Enfin bon, voilà. Donc l'idée des études de genre, c'est d'utiliser ce concept pour interroger des choses qu'on a tendance à considérer comme naturelles, irrévocables. Voilà, les garçons préfèrent le bleu, les filles préfèrent le rose. C'est un exemple bateau, mais c'est un peu ça. En se posant la question de comment est-ce qu'on en est venu là, si on fait des études de genre en histoire, comment s'organise l'espace en fonction de ça, si on fait de la géographie du genre. Là, j'étais dans un master pluridisciplinaire, donc on peut faire ça en lettres aussi, s'interroger sur comment se partage en fait, l'histoire des lettres, les femmes qui écrivent, qu'est-ce qui advient d'elles, qu'est-ce qui advient des hommes en comparaison. Enfin, voilà, ça amène à faire des comparaisons et à considérer que c'est des choses qui sont sociales, donc qui sont construites, donc on peut les interroger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, on peut les interroger et on peut donc les changer aussi.
Alors ça, c'est la partie un peu, on va dire, militante ou engagée. On peut utiliser les études de genre pour ensuite se dire, par exemple, c'est pas normal que les choses soient comme ça et on essaie de les changer. À la base, les études de genre, elles peuvent avoir une implication militante, mais il y a aussi un côté, faire des recherches générales sur le sujet, donner des éclairages et apporter des connaissances.
Mais c'était clair.
Super.
Et c'est de ça dont ont si peur certaines personnes. Oui. Bah, décidément, ils ont peur de pas grand chose. Moi, j'ai une question du coup qui me vient. Après, on fera une petite pause musicale comme d'habitude pour se détendre un peu. Toi, tu as axé donc ton mémoire sur comment on devenait militant finalement. C'est-à-dire, où est-ce que tu l'as axé en sens large ? C'est-à-dire, est-ce que les gens comprennent ce qu'est la notion de genre et est-ce qu'ensuite ils deviennent militants ? Elle est compliquée, ma question. Même moi, je me suis dit...
Alors, je vais essayer de répondre. J'ai essayé de m'extraire du terme militant parce que le terme militant-militante implique que la personne fait partie d'un groupe. Et notamment pour les personnes qui se définissent comme féministes, ou d'ailleurs qui ne se définissent pas comme féministes, mais que j'ai défini comme étant intéressée par l'égalité de genre, toutes ces personnes ne sont pas forcément dans des groupes. Donc si j'avais dit que je m'intéressais aux militants et aux militantes, j'aurais vu seulement une partie de mon sujet, et j'aurais trouvé ça dommage. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser aux personnes engagées, sachant que du coup, pour définir engagée, il fallait que je trouve un moyen de dire... engagé, mais sans être dans un groupe. Ça me paraissait un peu compliqué, alors j'ai simplement défini le fait d'être engagé comme le fait d'avoir un intérêt et de le montrer publiquement. Ce qui fait que j'ai interrogé des personnes qui avaient un engagement, donc qui montraient publiquement leur intérêt pour l'égalité de genre, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond.
Ah, ça répond. Mais ma question était plus compliquée que ta réponse. Je pense que la preuve que... Voilà. on se fait une toute petite pause. On rappelle que c'est toi qui as choisi les titres ce soir, quand on a une invitée.
Et après, on va rentrer un peu plus dans comment tu as fait l'étude, etc. Ouais. etc.
Et l'étude en elle-même.
Mais oui. Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Ce soir, nous sommes avec Anne, avec qui on va causer encore un peu plus de son mémoire et tout ça. Mais d'abord, c'est toi qui as choisi les titres qu'il y aurait dans cette émission. Et donc, celui-ci, c'était...
Alors, celui-ci, c'était un titre de Coldplay qui s'appelle « All I Can Think About Is You ».
Voilà.
Fab était ravi dans sa commande.
Tout ça pour dire que c'est son groupe préféré.
Voilà.
Anne. Mais c'est pas le mien.
Et donc, on est toujours donc avec Anne, effectivement, pour parler autour de ton mémoire, tout ça. Et on s'est fait cette remarque pendant la pause musicale que justement, tu as parlé, et on va parler ce soir aussi d'égalité de genre, et qu'on s'était dit que ce serait bien peut-être de la définir, définir cet ensemble de mots.
Oui, sachant que tout à l'heure, on a défini ce que c'était le genre, enfin j'ai essayé de définir ce que c'était le genre, mais égalité de genre, ça veut dire quelque chose de légèrement différent. Parce que, en fait, je me suis trouvée devant la difficulté de faire face à des personnes qui pouvaient être engagées pour des raisons très, très, très variées. Et moi, pour définir mon sujet, il fallait que je choisisse seulement une définition, c'est-à-dire j'interrogeais des personnes engagées sur quelque chose en particulier. Donc quoi ? Et je me suis retrouvée face, en fait, à différents types d'engagement, mais notamment, il y avait des personnes qui s'engagent en se disant, bon, le système de genre que j'ai défini tout à l'heure, il est fondamentalement inégalitaire. On divise en deux, on crée des normes, on hiérarchise, ça va pas du tout. Il faut arrêter tout ça. Donc ça peut être une forme d'engagement pour l'égalité de genre. Et d'une autre sorte, même si ça peut se rejoindre, il y a des personnes pour qui ce qui est important, c'est la manière de se définir soi-même. C'est-à-dire, j'ai dit au début de l'émission, je m'identifie comme femme. Bon, il y a des personnes qui s'identifient comme homme, il y a des personnes qui s'identifient comme personne trans, il y a des personnes qui s'identifient comme non-binaire. Enfin, il y a des multiples manières de s'identifier. Et donc, certaines personnes vont dire, pour moi, l'égalité, c'est que chacun, chacune puisse s'identifier comme il, elle veut. Donc, c'est des définitions qui peuvent se rejoindre, mais en fait, ça ne coïncide pas souvent chez les mêmes personnes. C'est souvent soit l'un, soit l'autre, un petit peu. Bon, ça dépend, la vie est un peu complexe, ça dépend des personnes. Donc, quand je dis égalité de genre, en fait, j'essaie de recouvrir toutes ces personnes-là. Toutes les personnes qui, ont envie d'une égalité de genre. Et il y a une forme d'objectif, mais c'est pas forcément le même. Les personnes que j'ai interrogées, des fois, avaient des objectifs variés, des manières de faire variées. Voilà, ça me permettait de chercher à interroger le plus de monde varié possible, on va dire. Voilà.
Ben voilà qui clarifie l'objet du mémoire.
Oui.
Et maintenant, tu parles d'interroger des gens, donc du coup, ça veut dire que tu as passé des entretiens, tu as passé du temps avec des gens à écouter un peu leur vie, finalement, pour essayer de définir des thématiques, comme tu le disais, et puis de voir un peu ce qui les unissait ou ce qui ne les unissait pas, d'ailleurs. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé ?
Comment ça s'est passé ? Oui, non, c'est une bonne question. J'ai voulu faire des entretiens où les personnes allaient pouvoir parler de leur vie. Alors, on appelle ça en sociologie des entretiens biographiques où on parle du parcours de vie. Donc, tout ça pour dire que c'est des entretiens où on parle de la vie de chaque personne. Parce que je me suis dit, si je veux comprendre comment ces personnes en sont venues à s'engager pour ça, il faut que je comprenne leur vie en général. Donc j'avais envie de les entendre parler et de les faire parler de leur vie. Donc comment j'ai fait ? J'ai pris des contacts, j'ai choisi des endroits où j'allais contacter des personnes. Il fallait que je m'assure au premier abord qu'elles soient intéressées par ce sujet. Donc en fait, pour ça, j'ai choisi trois milieux. C'est le nom de mon mémoire. J'ai parlé de milieu associatif et militant, le milieu universitaire et sur Internet. Donc j'avais défini des critères. Et pour simplifier, je me suis dit, si une personne est dans une association, ça veut bien dire qu'elle est engagée pour. Si une personne fait un master à l'université en études de genre, c'est qu'elle est engagée pour. Et si une personne fait un blog sur Internet sur les questions de genre, ça veut dire qu'elle est engagée pour. Donc j'ai contacté des gens, et puis les personnes qui m'ont répondu, parce que tout le monde ne m'a pas répondu, j'ai essayé de les interroger, j'avais un nombre limité quand même de personnes à interroger. J'ai interrogé 17 personnes. Et j'ai gardé 16 entretiens, parce qu'il y a souvent des entretiens qui sont un peu loupés parmi les entretiens qu'on fait. Voilà, ça durait en moyenne 1h40, un peu plus. Et en fait, voilà, on discutait. J'avais préparé une sorte de série de questions, puis je laissais beaucoup les personnes parler. C'était surtout ça qui m'intéressait.
Et elles avaient de quel âge à quel âge, ces personnes ?
Alors, c'était des personnes qui avaient entre 21 et 71 ans. La moyenne, c'était autour de 39 ans, à peu près. Sachant que je n'ai pas sélectionné sur des critères d'âge, donc ça aurait pu être complètement différent. Et puis, c'est important de le signaler aussi, je n'ai pas sélectionné sur des critères de genre, d'autres personnes diront sexe, dans le sens où il y a beaucoup d'études qui se focalisent uniquement, par exemple, sur des femmes, uniquement sur des hommes. Moi, j'ai dit non, en fait, j'interroge les gens parce qu'ils, elles, sont engagés. Donc, j'interroge des gens, quelle que soit leur façon de s'identifier. Donc, j'ai interrogé, je crois, 6 femmes, 8 hommes, une personne qui s'identifiait comme trans FTX et une personne qui s'identifiait comme femme androgyne. Je crois que j'ai dû oublier quelqu'un au milieu, ou alors, bon, voilà. Mais c'était important pour moi de varier, en fait. Voilà.
C'est à nous, là, quand elle dit « voilà ».
Oui, oui, oui.
Je vais arrêter de dire « voilà », attention.
Et alors, on peut peut-être commencer, parce que toi, ce que tu nous disais pendant la prépa, c'est que la première question que tu apportais, c'était comment sont-ils ou elles arrivés à l'engagement, en fait. Et après, moi, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Justement, est-ce qu'on retrouve déjà là, dans cette première question, une diversité de parcours ?
Bah, c'est souvent une question qui faisait réagir parfois longuement. Il y a une personne qui m'a parlé pendant 45 minutes sans interruption avec cette première question. Après, c'était une exception quand même. La plupart des gens parlaient moins de 20 minutes, mais déjà, c'était une question qui avait volonté à être ouverte pour que les personnes, souvent les personnes me disaient « Mais si tu me demandes comment j'en viens, mais t'as envie que je te raconte ma vie ?» Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est que les réponses... les personnes me racontaient leur vie, ou au moins une partie, et ensuite, quand elles avaient terminé de parler, je repiochais en fait sur ce qu'elles avaient dit, je leur demandais des précisions. Alors, tu as dit ça, est-ce que tu veux dire ça? Bon. Et en fait, le sens commun, ou d'ailleurs les choses qui s'opposent, n'apparaissent pas comme ça à première vue. Ça nécessite déjà de retranscrire les entretiens, ce qui est une étape qui est très très longue et très ennuyeuse, dans le sens où on a l'impression qu'on fait un travail qui n'est pas très intéressant, mais ça commence à être intéressant quand même, parce qu'on apprend des choses sur ce qui a été dit, on avait oublié plein de choses, et une fois qu'on a fait ça, après il faut essayer de réorganiser, se dire c'est marrant, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de leur enfance, et puis il y a des personnes qui n'en ont pas parlé, alors du coup qu'est-ce que je fais, est-ce que je parle de ça? Et donc c'est à partir de là que j'ai pu essayer de reconstruire du sens. Donc c'est difficile de dire si à la première question on voit des similitudes ou pas. En tout cas, pas pendant les entretiens. Je suis tellement focalisée sur qu'est-ce qu'est en train de me dire la personne ? Je ne peux pas réfléchir à ça.
Et donc, du coup, comment est-ce que tu as après décortiqué tout ça ?
Alors, après, donc, une fois que j'ai eu tous mes entretiens qui étaient retranscrits, ce qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, et d'ailleurs, c'est assez étrange qu'il n'existe pas encore de logiciels qui retranscrivent des entretiens, ils ne savent pas faire ça pour l'instant. Donc, une fois que j'ai eu fait ça, ça m'a pris quand même bien un mois et demi. J'avais bien en tête en fait les différents entretiens que j'avais faits, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les questions que j'avais posées, parce qu'il y a certaines fois j'avais posé des questions précises à tout le monde, pour un peu classer les informations. Donc j'ai en fait redécoupé tout ce que je venais de taper en tableau. J'ai fait un tableau Excel qui, si j'avais voulu l'imprimer, aurait fait 121 pages, donc du coup je n'avais pas envie de le faire. Mais donc j'ai classé tous les entretiens dans catégories, et puis bon, il y a des catégories au fur et à mesure qui se sont avérées ne pas être très intéressantes, des catégories qui se sont avérées être pleines d'informations de tous les côtés. Et à la toute fin, avant la partie d'analyse, il a fallu que je décide quelle catégorie que je venais de créer nécessitait que je fasse vraiment une analyse. Parce qu'il y a tellement de matériaux qui est recueilli quand on fait des entretiens qu'on ne peut pas tout garder. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé.
Et du coup, tu avais choisi quoi ?
Alors, j'ai choisi quand même plein de choses. J'ai un peu eu de la difficulté à faire un choix, parce que tout me semblait intéressant, mais j'ai quand même dû en faire certains. Notamment, j'ai un peu divisé mon plan, donc ça veut dire ma réflexion, en trois parties en gros. Une partie où je parlais de l'enfance et de l'adolescence, des personnes que j'avais interrogées, en me posant la question, est-ce que ce sont des périodes qui sont extrêmement importantes ou pas ? Pour finir par s'engager un peu plus tard. Est-ce que c'est aussi des périodes où on peut s'engager ? Est-ce que pendant qu'on est adolescent ou adolescente, on s'engage ? Voilà, donc ça c'était un peu ma première partie. Ma deuxième partie, ça a été plutôt... Bah, du coup, j'ai un trou de mémoire. Tiens, du coup, c'est super. Non, en fait, c'est... Non, tout bêtement, pardon. C'est le reste de la vie, en fait. Puisque j'avais un peu divisé en deux. Donc, du coup, tout le reste de la vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des points communs? Et j'ai trouvé qu'il y avait des points communs. C'est ce que j'ai appelé des milieux porteurs. Donc, en fait, c'est des endroits ou des situations qui ont soit aidé les gens à s'engager, soit les ont aidés à maintenir un engagement qui existait déjà. Donc ça, j'avais trouvé plusieurs choses en commun entre toutes les personnes, et j'ai essayé de faire une partie là-dessus. Et la dernière partie, je me suis dit, bon, c'est bien de dire comment est-ce qu'on en est venu à, mais comment est-ce qu'on définit son engagement et comment est-ce qu'on le ressent, ça me semble important aussi. Donc, j'ai fait aussi une partie là-dessus.
Et ben voilà.
Et ben voilà.
J'ai volé le voilà.
Je l'ai fait exprès, je l'ai pas dit, je l'avais laissé.
Non mais vas-y. Du coup en fait avant qu'on refasse une petite pause, est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple tu parlais de l'enfance, quels sont les traits que tu as réussi à souligner? Est-ce que finalement il faut avoir eu une enfance avec des parents super ouverts et militants pour devenir militant soi-même, ou est-ce que finalement
engagé
oui, ça c'est
mon bien,
c'est ma déformation,
oui.
Alors traduisez et engagé pour devenir engagé soi-même, ou est-ce que finalement, non, on peut venir d'une famille très tradie et puis en fait s'engager ensuite?
Alors, c'est vraiment une bonne question. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que autant il pouvait y avoir des familles que les personnes présentaient comme égalitaires, parce que j'ai pas moyen de vérifier si leur famille était concrètement égalitaire, je peux me fier que à leur discours et c'est là-dessus que je me suis basée. Et autant, il y avait des familles où il y avait des traits qu'on pourrait qualifier d'inégalitaires. Donc, il y avait des familles où, par exemple, les mères ont été définies comme féministes et des personnes m'ont dit, ça a été très important pour ma vie parce que ma mère, elle lisait des magazines féministes. Alors, je les lisais aussi, donc on peut se dire que ça a quand même eu une influence. Et d'un autre côté, même si c'est pas un opposé complet, une personne qui m'a expliqué que sa mère était très homophobe et l'a empêchée de vivre sa vie, en fait. À partir du moment où elle a découvert qu'elle était en couple avec une fille, elle lui a dit, écoute... tu n'auras plus de vie sociale à partir d'aujourd'hui si tu continues à faire ça. Donc c'était quand même assez fortement inégalitaire. Et la personne interrogée en question qui s'appelait Fiona, enfin c'est un faux prénom, mais voilà, Fiona continuer à voir sa copine, mais en fait, contrairement aux personnes qui avaient vécu dans un environnement plutôt égalitaire, ça a provoqué un peu une réaction inverse. C'est-à-dire, elle s'est dit, mais en fait, ça va pas du tout comme manière de faire les choses. La société devrait m'accepter pour ce que je suis. Donc en fait, elle a fini par arriver au même point que les personnes qui avaient eu un environnement qui les poussait à avoir plutôt une mentalité égalitaire. Donc ça semble pas être un facteur, c'est soit vous avez une famille égalitaire et vous finissez engagé, soit vous avez une famille inégalitaire et vous finissez engagé, c'est les deux. Donc c'est pas un bon facteur d'explication en fait.
Ben voilà, ça c'est dit. Et du coup, moi je vous propose qu'on aille se balader sur des monts. Oui, vous verrez, c'est des monts, c'est sympa. coucou toi. Excuse-moi, je te réveille. C'est bien la causerie dimanche 22-23 heures. Et donc, et ben, on est toujours avec Anne qui a choisi des chansons très détendantes ce soir. Et donc, c'était quoi qu'on vient d'entendre ?
C'était un titre de Zazie. Alors, je ne saurais pas le prononcer puisque c'est le nom de montagne volcanique en Islande, mais Tindsfjöll, je pense. Tindsfjöll.
Tindsfjöll, ouais.
Ok.
Voilà, d'où les monts que je disais avant. On s'est baladé sur des monts. Voilà.
En deux mots et tout ça. Et enfin.
D'ailleurs, tu avais une question, Jean-Yves.
Oui, c'est ça. Alors, on est toujours avec Anne, hein, autour du mémoire, etc. Et alors, avant la pause musicale, on est parti sur deux exemples autour de... Pardon, je reprends mes mots. Est-ce que l'environnement familial est déterminant dans le fait de s'engager ou non. Tu nous avais donné deux exemples. Et en fait, tu voulais rajouter quand même quelques exemples pour justement montrer la richesse en fait de ça. En fait, il n'y a pas juste deux situations, etc. Et après ces exemples, on peut peut-être partir sur est-ce que l'environnement scolaire, le milieu scolaire, serait... Alors déterminant, je ne sais pas comment on peut dire...
Propice
à l'engagement.
Oui. Alors c'est tout à fait ça, je voulais préciser parce que donc j'ai parlé d'un côté de personnes qui avaient des mères féministes et de l'autre côté une personne qui avait une mère qui était homophobe. Alors je précise quand même, les personnes dans mon échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes que j'ai interrogées, il y avait seulement 3 personnes qui avaient des mères que les personnes qualifiaient de féministes. Donc c'est pas non plus généralisable à tout le monde, c'est pas vous avez une mère féministe, il va se passer quelque chose quoi. Par contre, pour donner d'autres exemples, il y avait trois femmes qui m'ont donné, qui m'ont expliqué qu'en fait leur entourage familial ou leur entourage proche quand elles étaient enfants les qualifiait de garçons manqués. Donc garçon manqué, on peut se dire bon garçon manqué, en soi si on réfléchit un peu à ce que ça veut dire, c'est un peu insultant. Mais en fait à ce moment-là elles l'ont pas pris comme ça, c'est-à-dire c'était même pas négatif, c'est-à-dire c'était simplement un qualificatif pour expliquer ce qui leur arrivait. Et ce qu'elles m'expliquaient, c'était qu'on les laissait vraiment faire ce qu'elles avaient envie de faire. Donc elles pouvaient transgresser les normes de genre comme elles avaient envie. Et malgré tout, elles ont donné l'impression que c'était quelque chose d'important pour elles plus tard dans la vie, pour leur engagement, d'avoir pu en fait faire ça. Mais à contrario, il y a une personne que j'ai interrogée qui a été élevée dans une famille qui, elle, prônait plutôt l'égalité. Et là, je pense que je fais le lien avec le scolaire parce que ça me semble important. Souvent, les deux se répondent. Mais qui allait dans un environnement scolaire qui était catholique, lycée privé, enfin collège privé, etc., école privée. Et qui a eu une sorte de contraste entre ses parents qui étaient syndicalistes catholiques de gauche et qui disaient toute la journée bon l'égalité c'est très important et ce milieu scolaire qui était plutôt très normé en termes de genre et où il a eu des situations où il y a eu des personnes donc religieuses un prêtre qui est intervenu et qui a eu des propos sexistes qui l'ont marqué. Et donc ce que je voulais dire avec ça c'est que le milieu scolaire tout seul ça explique pas grand chose, le milieu familial tout seul ça explique pas grand chose et il y a eu des fois des explications qui venaient de la confrontation entre les deux, des personnes qui pouvaient être qui pouvaient avoir une grande liberté chez elles et puis qui étaient confrontées au fait de devoir réduire cette liberté à l'extérieur et ça les a interrogées. Des personnes qui, au contraire, étaient très... par exemple, la personne qui avait une mère qui était très un peu homophobe, même si elle a pu être garçon manqué de son côté quand elle a eu envie de se libérer de ses normes de genre quand elle était petite. L'environnement scolaire l'a beaucoup aidée parce que c'était très, très ouvert. Elle a pu rencontrer des personnes très variées, avoir des profs très inspirantes. Et ça l'a beaucoup aidée. Donc, ce que je trouvais intéressant de préciser, c'était vraiment cette articulation entre les deux. Et il y a parfois des explications qui se trouvent plutôt dans les deux que dans un seul, en fait, de ces milieux.
Au final, en fait, les engagements viennent plutôt d'un parcours de vie que d'une cause.
Alors oui, c'est ce que je... De toute façon, c'est ce que j'ai dit à la fin en conclusion. C'est pas possible. Je peux pas regarder le parcours de quelqu'un, même si j'avais écrit sur une feuille immense tout le parcours de la vie de la personne, je serais pas capable de dire là, forcément, là, tu as les causes déclencheuses pour devenir féministe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, quand je parle de l'environnement familial et de l'environnement scolaire, il y a quand même 25% des gens que j'ai interrogés qui n'ont pas du tout parlé de leur enfance ou de leur adolescence. Du tout. Donc ce que ça m'a amené à me dire, c'est que l'enfance et l'adolescence, ça peut aider. Ça peut être porteur, que ce soit égalitaire ou inégalitaire, mais il y a des personnes pour qui ça joue pas du tout. Donc, disons que si je devais donner un facteur commun, j'en serais bien incapable. Et bon, je trouve ça un peu normal vu la diversité des vies humaines.
Ouais, c'est même rassurant. Hein. Moi, oui. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est rassurant. Justement, ça montre bien qu'on est bien plus riche que d'une chose qui nous essentialiserait, qui nous déterminerait, la famille, le milieu, etc. Mmh. Je trouve que c'est plutôt rassurant, quand même.
Oui, c'est sûr.
Et surtout, ça démontre que finalement, ce que tu disais au départ, c'est que le genre étant une construction sociale, il est parfaitement possible de déconstruire et de changer la construction sociale.
Oui.
Vu qu'il n'y a pas de facteur déterminant fixe, bah du coup, ça veut dire que on peut tous devenir un peu moins bêtes.
Oui, et en plus, ce serait très triste si j'avais trouvé quelque chose comme par exemple que toutes les personnes venaient de milieux égalitaires et avaient eu un environnement scolaire égalitaire, ça voulait dire à moins d'avoir ces facteurs-là dans votre vie, vous ne pouvez pas remettre en question les normes de genre. Or, on sait bien que les normes de genre, elles existent depuis très 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 longtemps, même si elles sont mouvantes, et il y a toujours eu plus ou moins des personnes qui les ont remises en question, ce qui prouve que même dans un environnement inégalitaire, on peut arriver à avoir envie d'aller vers plus d'égalité. Donc, je rebondis sur ce que tu dis, oui, c'est tout à fait ça.
Et donc c'est cool.
Carrément.
Oui, ça, c'était ma traduction. Tu as été amené à t'interroger, du coup, c'est ce que tu nous disais pendant la prépa, parce que tu as interrogé, tu disais aussi bien des gens qui se définissaient comme femmes et des gens qui se définissaient comme hommes, et du coup, tu es venu à t'interroger sur la relation, en fait, qu'il y avait entre ces hommes et, on va dire, le fait de se dire, je suis un homme, mais je suis pour la déconstruction de la norme qu'on m'a collée comme étant un mâle dominant au départ. Mmh. Et tu disais que ce n'était pas si simple que ça, en fait, au final.
Oui, en fait, ça, c'était plutôt sur la partie au niveau du ressenti et de la façon de définir son engagement. En soi, je me suis interrogée à un peu tout le monde, mais sachant que, je précise, la seule recherche qui était un peu ressemblante à la mienne, parce que, bizarrement... alors que je trouve que c'est un sujet qui me semble évident, c'est quelque chose qui a été... quasiment pas, voire pas du tout étudié, mais il y a quand même eu une étude sur le sujet qui s'est focalisée sur les hommes qui se disaient féministes. Et donc c'est la seule sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Forcément, je me suis dit, je vais peut-être trouver des choses qui ressemblent à ce qui a été trouvé dans cette recherche. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, en général, parce que à mon avis, il vaut mieux prendre en général et puis ensuite voir ce qui différencie les hommes du lot dans ces circonstances. Au niveau du ressenti, en général, les personnes peuvent avoir un aperçu en fait, de leur engagement qui est plutôt positif ou plutôt négatif, mais pour des raisons très proches. Ça peut paraître un peu bizarre. En fait, tous et toutes font le constat que c'est pas facile tous les jours d'avoir en fait une grille de lecture différente, parce que quand IL vont voir un film, eh ben, IL se disent « Oh là là mais c'est pas possible, c'est super stéréotypé, la fille, alors vraiment femme fatale, et le mec, gros tas de muscles, franchement c'est insupportable. » Et alors, elles vont sortir du cinéma et être confrontées à des amis ou des proches qui ne comprennent pas du tout leur point de vue. Donc en fait, elles peuvent pas se débarrasser de cette grille de lecture, elles n'y arriveront pas, et elles le savent, donc la plupart l'assument, mais ça ne les empêche pas forcément pour certaines de souffrir en fait du fait d'être pas compris ou du fait de voire même d'être rejeté ou de recevoir des oppositions fréquentes, parce que comme peu de gens ont cette grille de lecture, elles se retrouvent confrontées, ces personnes, à des personnes qui disent mais de quoi tu parles, quoi, d'où tu sors. Donc qu'est-ce que viennent faire les hommes au milieu de ça ? Les hommes ont une difficulté supplémentaire, et en fait ils ont aussi une difficulté en moins. La difficulté en moins, d'abord, c'est que en tant qu'hommes, quand ils parlent de ces sujets, ils sont plus facilement crus et écoutés que si c'était une femme qui parlait, à cause des stéréotypes de genre associés aux femmes et aux hommes. Pour donner un exemple, il y a une des personnes que j'ai interrogées qui expliquait qu'il faisait de la sensibilisation dans des entreprises sur les questions de genre. Bon, quand lui il parle, les gens lui disent « Ah, ça, c'est incroyable, ça m'a ouvert les yeux ». Et quand il explique pendant son intervention qu'ils ont divisé le groupe en deux et que l'autre partie du groupe a sa collègue, on lui dit « Ah, ça va être une réunion tupperware ». Donc il sait qu'en tant qu'homme, il va être beaucoup plus facilement cru. Donc il y a un côté où super, c'est positif, je suis pas vraiment... discriminer au point où sont les femmes, donc je vais pouvoir bénéficier de ça pour faire entendre ma parole. Mais néanmoins, le désavantage, c'est que l'engagement pour l'égalité de genre, comme le dit la recherche sur laquelle je me suis basée, il n'a pas été pensé pour les hommes. Ça a été pensé pour les femmes en disant, bon, les femmes sont vraiment le groupe minorisé, il faut que ça s'arrête. Quand un homme s'engage pour ça, il se retrouve dans une position où il sait qu'il est avantagé par le système et il sait qu'il lutte contre ça. Donc déjà, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, premièrement, il va trouver peu d'autres hommes qui sont engagés comme lui, donc il va se sentir potentiellement un peu seul, et ça peut poser problème. Ensuite, même s'il sait qu'il sera plus entendu que si une femme parle, eh ben, il peut se sentir mal vis-à-vis de cette position. Alors est-ce qu'il doit du coup l'utiliser pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il ne doit pas l'utiliser parce que quand même, j'utilise des stéréotypes qui sont positifs à mon encontre? Et puis, finalement, il y a cette question de est-ce que j'ai le droit de me dire féministe? Est-ce que je ne dois pas me dire féministe? Quel doit être mon positionnement? Et en fait, globalement, il y a une sorte d'enjeu de mettre en cohérence leur engagement. Et certains y arrivent très bien, ils ne se posent même plus de questions. Et d'autres se posent tellement de questions que parfois, ça devient très difficile pour eux. Ils ne savent plus où se mettre, en fait, ils ne savent plus quoi faire. Donc, il y en a même certains que ça amène, comme le montrait encore une fois aussi la recherche sur laquelle je me suis basée, à s'éloigner de l'engagement. C'est-à-dire, ils se disent, bon... Si je parle, je suis plus entendue, mais il ne faut pas trop que je parle, il faut que je laisse parler les femmes, donc du coup il faut que je dise rien. Je ne peux pas prendre un métier sur le sujet parce qu'il faut que les femmes le fassent, c'est pas moi. Enfin, du coup je ne paie rien, voilà, j'arrête et je ne paie plus rien. Donc c'est un peu la particularité, c'est que ça devient difficile pour une autre raison que pour les femmes pour qui cette question ne se pose pas.
Oui, parce que là, pour être clair, c'est le fait que les femmes, de toute façon, sont minorées. Donc, par définition, elles savent qu'elles sont dans l'adversité dès le départ. Mmh. C'est-à-dire, voilà, elles le ressentent dès le départ. C'est ça. C'est parce que je dis ça pour désamorcer quelque chose qu'on pourrait croire. On n'est pas en train de dire que c'est plus dur pour les hommes. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire.
Non.
C'est simplement qu'il y a une différence. C'est même plutôt plus facile. Du coup, c'est ce que tu disais par rapport à la position où les gens. Voilà. Mais c'était juste pour expliquer que, bah, du coup, t'as pu soulever aussi des paradoxes qui étaient le fait de pouvoir d'avoir interrogé aussi bien des gens se définissant comme homme, comme femme ou comme autre définition. Bah du coup, il y a un paradoxe qui peut se soulever. Et c'était intéressant de le mettre sur la table.
Quoi. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est pas la même chose si on s'engage pour l'égalité de genre qu'on se définisse comme femme, qu'on se définisse comme homme ou autrement. C'est pas pour dire c'est pire pour l'un, pire pour l'autre ou pour plaindre certaines personnes plus que d'autres. C'est vraiment juste pour dire voilà. Pour les femmes, ça se passe plutôt comme ça. Et pour les hommes, il y a une question qui se pose pas pour les femmes. Voilà.
Et d'ailleurs, dans les entretiens que tu as pu mener, notamment avec des personnes se définissant comme femmes, est-ce que tu as pu ressentir aussi des fois des gens qui disaient « Moi, j'en peux plus, j'arrête parce que ça fait des années que je suis engagé et j'en peux plus. » Quoi. Enfin, ça devient vraiment trop et j'arrête parce que ça me saoule. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Mais...
Oui, alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les personnes font le même constat, mais il y en a certaines qui ont beaucoup de mal à le vivre et d'autres qui le vivent très bien. Y a des personnes qui me disent « Oh bah, je suis plus invitée aux réunions de famille, c'est pas grave, ça fait du ménage. » Et il y en a d'autres qui m'ont dit, donc notamment je pense à une de mes interviewées que j'ai appelée Léa, qui m'expliquait « En fait, ma famille me dit, si tu continues à être engagée là-dessus, tu vas souffrir. Donc arrête d'être engagée là-dessus. » Donc forcément, elle a ses proches qui ne comprennent pas son engagement, qui lui disent qu'elle devrait arrêter. Elle voit bien que ça peut créer des conflits avec son compagnon. Il y a un moment où ça devient difficile. C'est-à-dire, elle se dit « Oh là là, mais si je pouvais juste arrêter de voir l'inégalité que je vois tous les jours partout, mais peut-être que je serais plus heureuse. Mais en même temps, je n'ai pas envie. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ?» Donc il y a aussi cette question qui se pose clairement, même pour les femmes. Hein, ça peut être vraiment difficile de se retrouver confronté à une société qui comprend pas du tout ce que vous êtes en train d'interroger.
Et non, c'est parce que je voyais l'heure passer et qu'en fait, je regardais à nouveau mes notes. Et à un moment donné, tu avais parlé du entre guillemets de clown féministe.
Ah oui.
Et je pensais que ça serait intéressant que tu reviennes dessus.
Oui, c'est la même interviewée dont je parlais, c'est Léa qui avait constaté que en fait, quand elle parlait. À ses amis, comme il lui arrivait de relever certains faits qu'elle voyait, au fur et à mesure, en fait, ils se sont mis à faire exprès en fait, de l'invectiver spécialement là-dessus, lui dire « Ah, au fait, tu penses quoi de ça ?» ou alors à dire volontairement des phrases qui savaient être sexistes pour la provoquer. Et elle disait « J'avais l'impression d'être devenue un clown féministe. » Donc elle a décidé qu'elle voyait moins ses amis, parce qu'il peut y avoir cette prise de décision carrément de s'éloigner de personnes qui au bout d'un moment te mettent trop en difficulté, te rejettent trop. Il y a d'autres personnes qui s'en accommodent plus ou moins et qui disent bon bah je mets en off mon engagement, j'essaye du moins, et ça va un peu se passer mieux avec les amis. Et puis il y a d'autres personnes qui disent non, alors là, il faut que je voie des gens qui comprennent de quoi je parle. Des fois, ça fait du bien. C'est ce qu'on appelle plus ou moins des espaces safe. Donc le fait de pouvoir se dire, bon, bah, je suis dans cet espace et on va pas me dire, mais t'es bizarre, de quoi tu parles, à chaque fois que je vais dire, oh, au fait, là, c'est pas du tout égalitaire.
Safe étant sécurisé en français.
Oui, c'est ça.
Voilà, où on se sent bien. Non, mais je traduis. Je...
Mais c'est très mais bien, cette traduction.
Je fais des traductions comme ça de temps en temps. Mais juste avant qu'on fasse une petite pause et tout, encore, moi j'avais une question, alors peut-être plus, peut-être pas large parce que c'est pas le mot, mais en fait, tu définis depuis tout à l'heure la notion d'engagé. Donc t'as retenu 16 interviews, c'est ce que tu disais. Et est-ce que quand même tu as ressenti, toi, à titre personnel, parce que tu disais quand même qu'au départ c'était aussi une interrogation vis-à-vis de toi, est-ce que tu as pu trouver au travers de ces 16 interviews-là une part de réponse sur pourquoi toi t'es devenu engagé du coup?
Oui, c'est ce qui est rassurant. Si j'avais dit, oh là là, mais dis donc, ça correspond pas du tout à ce que j'ai vécu. Non, alors c'était très intéressant de voir qu'il y avait plein de choses qui correspondaient, puis il y avait aussi des choses qui correspondaient pas. J'avais remarqué que mes interviewés avaient, alors ça peut aussi être lié à la façon dont je les ai sélectionnés, étaient pour beaucoup assez diplômés. C'était pas volontaire du tout, mais il y a eu cette sélection qui s'est faite que, en fait, 75% d'entre elles, eux, avaient un bac plus 5. Moi de même, il y avait aussi ces questionnements sur le ressenti, ça peut être difficile. Pareil pour moi, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis il y a des détails où ma vie est un peu particulière, mais malgré tout, le fait d'écouter des gens parler là-dessus, de faire une recherche, d'essayer d'organiser ça sur un mode le plus logique et possible, en fait ça m'a permis de prendre du recul, je crois, et j'en suis ressortie en me disant, ah mais en fait j'ai même pas réfléchi au fur et à mesure si ça ressemblait à moi ou pas, toutes ces histoires. C'est-à-dire que je me suis vraiment détachée de ça, et à la fin je me suis dit, ah oui mais en fait ça me correspond. Et puis c'est surtout intéressant quand mes proches ont lu ce que j'avais écrit, notamment ma mère, et m'a dit, ah du coup je comprends mieux quand tu dis ça, que ça peut être difficile de pas être cru, etc. Oui, oui, tout à fait. Du coup c'est ça en fait, c'est ça l'effet que ça a eu pour moi. Et c'était apaisant.
Ah, donc c'est bien, comme tes musiques en fait.
C'est ça.
Donc, le mot-clé, c'est apaisant.
Et d'ailleurs, on va vous en donner la preuve tout de suite que les musiques choisies par Anne sont apaisantes, avec un big up à tous les fans de Buffy contre les vampires.
Oui.
Nothing ever needs to be.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canus, à la causerie, toujours en direct, comme tous les dimanches, pardon, de 22h à 23h. On est toujours avec Anne ce soir, et c'est encore une fois toi qui as choisi le titre, alors oui. Tu vas nous donner le titre quand même.
Oui, alors l'autrice c'est Mélanie Dawn, et le titre s'appelle « I can't take my eyes off you ». Voilà, je précise simplement parce que je trouve ça un peu drôle. La chanson paraît être une chanson qui parle d'amour fusionnel dans un couple. Et en fait, elle parle de son amour pour son poste de télévision.
Oui. Ah ouais.
C'est voilà. Super drôle.
Hein. Oui, c'est très drôle quand on réécoute et qu'on connaît le double sens.
Ok. Voilà. Et ben, alors, on était avec toi, et pour, enfin, on a parlé de ton mémoire mm-hmm. et autour de l'engagement pour l'égalité de genre. Mm-hmm. On approche de la fin et...
Ça arrive.
Oui.
Ah bah, il en faut toujours une de fin. Hein. C'est impossible de faire autrement. Et alors, moi j'avais une question, après tu pourras y rajouter ce que toi tu as envie de rajouter, mais est-ce que tu aurais des livres ou des sites internet ou des choses comme ça que tu as envie de conseiller aux gens, de dire, bah allez-y, pourquoi pas, pour un peu avancer sur votre...
Alors, pour... Les sites internet, j'aurais bien aimé, parce que moi, c'est un peu comme ça que je me suis formée à la base, quand j'étais pas encore dans le master en études genre. Et ce que je peux conseiller, parce que là, j'ai pas de site en tête qui m'a aidée, c'est de voir un peu tout, en fait. C'est-à-dire d'essayer d'aller sur des sites d'information, en piochant des infos, d'aller sur des blogs. Voilà. Ce qui, à mon avis, me semble important, c'est pour aider la réflexion, c'est de pas avoir qu'une seule source. Parce que c'est important de le dire. Là, je parle pas de j'ai parlé de personnes engagées pour l'égalité de genre. On parle souvent de féministes. Bon, les féministes, entre elles, ne sont pas toutes d'accord. Entre elles, d'ailleurs, entre eux. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des sources différentes. Donc, je n'ai pas de choses à vous conseiller en particulier. Plutôt des livres, pour le coup. Déjà, j'ai parlé plusieurs fois d'une recherche sur laquelle je me suis un peu basée. Je vais quand même dire de quoi il s'agit. C'est un livre d'Alban Jacquemart qui s'appelle « Les hommes féministes ». Socio-histoire d'un engagement improbable. Donc voilà, le titre dit tout, c'est le côté un peu mise en cohérence de l'engagement. Voilà, c'est très intéressant et c'est donc en fait sa thèse qu'il a publiée en livre. Donc ça, c'est plutôt un conseil en termes de livre recherche, quoi.
Les thèses ont des titres plus courts que les mémoires. Non, ça c'était pour rire.
Non mais là pour le coup c'est vrai en plus. Je sais pas quel est le nom de sa thèse, hein. Ça se trouve c'est pas exactement le même. Voilà, alors après bon, d'un autre style, un livre que j'ai fait lire, enfin que j'ai prêté à ma famille et j'ai eu l'impression que ça leur plaisait, donc peut-être que ça plaira aux auditeurs, auditrices, c'est un livre qui est sorti récemment de la blogueuse qui s'appelle Emma, comme le prénom, et qui s'appelle Un autre regard, avec comme sous-titre truc en vrac pour voir les choses autrement. En fait, elle a découpé des journaux, trouvé des éléments de l'actualité qui lui parlaient, et puis ensuite elle les traduit en dessin et elle fait des réflexions dessus. Elle nous pose des questions sur ce sujet. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, elle a un blog aussi, donc Emma, qui s'appelle, je crois, Emma Clit. Je suis pas très sûre. En tout cas, bon voilà, vous pouvez aussi aller voir ses dessins par là, mais son livre, ce sont d'autres dessins. Et une dernière chose, dans un autre style, si ça vous plaît pas les recherches, si ça vous plaît pas les livres de témoignages qui font des dessins et qui sont de la BD, vous pouvez aussi chercher de la science-fiction qui parle de ça. Ça peut paraître étonnant, mais il existe des livres de science-fiction où... parce que quand on fait de la science-fiction, on change plein de choses, on va sur une autre planète, etc. Mais est-ce qu'on change le système de genre dans les science-fiction ? Ça peut être quand même une bonne idée de voir ce qui se passe sur une planète où les genres, ça ne fonctionne pas comme chez nous. Donc je vous conseille un livre qui date de, je crois, 1960, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans les années 70, qui s'appelle « La main gauche de la nuit » d'Ursula Le Guin. Ça parle en fait d'une planète où les personnes sont hermaphrodites asexuées, c'est-à-dire que en fait, la plupart du temps, ils ne sont pas sexués. Et puis quelques jours par mois, ils ont une période qu'on qualifie pour les animaux de rut, voilà, où ils vont aller vers plutôt un sexe, plutôt l'autre. Et donc, y a des questions de, du coup, c'est plus les femmes qui tombent enceintes, c'est tout le monde qui peut tomber enceinte. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça, en fait, ce n'est pas le sujet principal du livre, et c'est ça qui est intéressant. Mais on est tellement plongé dedans, vraiment, on se pose des questions, on en ressort en se disant « Oh, dingue !»
C'est alors moi qui l'ai lu et qui suis un fan de
SF.
Oui,
vraiment.
C'est un vrai petit bijou de SF.
Ah oui.
Voilà, non mais à tous les niveaux.
Ouais.
Que ce soit ce que tu décrivais, mais aussi l'univers, la façon de gérer l'univers SF, c'est vraiment un bijou. Voilà.
Ben, voilà.
Je vous le conseille d'autant plus.
Et, bah, et de toute façon, on remettra cette liste de petits liens et de livres sur le blog. Mm-hmm. Tout comme les auditeurs, les auditrices, vous pourrez retrouver le mémoire dans sa totalité d'Anne, qui sera sur le blog aussi de la Causerie. Merci beaucoup de partager ton travail.
De rien.
Je trouve que c'est une très belle démarche de mettre son savoir à disposition des autres.
Tout à fait.
Ses recherches. Et est-ce que toi, tu avais envie de rajouter quelque chose, envie de...
Saluer des gens.
Je vais pas vous saluer parce que vous êtes déjà là, mais je vais vous remercier de m'avoir convié. Je trouve ça très très cool de votre part, en fait, de m'avoir vu comme ça pour parler des Galigones et de vous être intéressé à ce que je faisais et d'avoir vraiment eu envie de me recevoir. J'ai trouvé ça super, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Bon, alors là, on rougit, ça se voit pas, mais merci à toi. Et tu peux peut-être remercier les interviewés que tu as eues.
Ah, enfin, oui.
Je dis ça comme ça, mais peut-être.
Non, mais c'est tout à fait. Je leur ai d'ailleurs adressé ma recherche en entier. Enfin, je leur ai mis à disposition aussi leurs entretiens si elles avaient envie, parce que je me suis dit que c'était important de partager. Mais c'est vrai, merci aux personnes qui ont bien voulu me recevoir, me voir, discuter de leur vie avec moi. Ça a été vraiment très intéressant et voilà, j'espère que le retour que j'ai pu vous en faire vous aura peut-être aidé à comprendre des choses sur vous, ou alors ça vous aura plu, vous aura intéressé, je sais pas.
Et on n'a pas pu tout dire ce soir, je vous le dis, parce que par exemple on n'a pas expliqué que souvent on avait plusieurs engagements successifs avant d'arriver à l'engagement pour l'égalité des genres ou des choses comme ça, mais vous retrouverez tout ça dans le mémoire d'Anne qui sera en ligne.
Quel suspense.
Dès demain. Ça donne envie de le lire comme ça. Il n'est pas long, il ne fait qu'une centaine de pages.
Voilà.
Donc voilà. Et bien avant de clore cette émission, on va quand même terminer vite fait par vous filer trois brefs qui n'ont absolument rien à voir, en tout cas avec Anne et avec le
c'est
thème.
L'instant bref. Quoi.
C'est ça, c'est l'instant bref. Et ben je commencer ou...
Ben, comment on démarre, ben, comme toutes les semaines, pour la permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches, c'est à la Lutine 91 rue Montesquieu, c'est lundi soir, à partir de 18h30.
Et l'autre rendez-vous, et pas des plus petits non plus, et des moins importants, c'est jeudi 21 septembre, c'est la grande manif contre les lois travail Macron, c'est départ manufacture des tabacs à 11h30.
Enfin, si cette fois les forces de l'ordre nous laissent démarrer.
Ouais, il faut peut-être demander directement à Gérard, l'ancien maire de Lyon, voilà. Est-ce que tu vas arrêter d'emprisonner les gens dans des rues pendant 2h30?
Voilà, parce que renseignez-vous sur ce qui s'est passé mardi dernier.
Juste, j'espère que justement, effectivement, on était beaucoup dans la rue quand même. J'espère qu'au fur et à mesure qu'on avance vers cette date et qu'on la dépasse, qu'on soit de plus en plus à ne pas bosser, à bloquer les entreprises, à bloquer l'économie, parce que je pense que dans un monde capitaliste, il est absolument nécessaire et primordial, pas juste de défiler, pas juste de casser trois vitrines, mais de bloquer la machine. Vraiment.
Voilà.
Voilà, c'était juste mon petit message personnel.
J'allais dire du vernis sans son. Alors, dimanche 24 septembre, donc dimanche prochain, c'est-à-dire avant la Causerie.
Oui.
Voilà. Si vous avez envie d'aller à Cluny, c'est dans la Saône-et-Loire, entre 9h et 19h à la salle des Griotons. Alors, on m'a dit que c'était facile à trouver. Moi, je sais pas. C'est organisé par la CNT 71, le groupe Libertaire 71 et La Vache Noire, membre de la Fédération Anarchiste. Et c'est le salon du livre libertaire de Cluny. Et il y a plein d'intervenants, allez voir le programme, il y a plein d'interventions assez sympas qui sont prévues, et vous pouvez aussi retrouver plein de maisons d'édition et notamment aussi plein d'auteurs et d'autrices qui se feront un plaisir de soit discuter avec vous, soit vous dédicacer des livres. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller se réapprovisionner en culture anarchiste sur place, c'est cool.
Ben oui. Et la pensée libertaire anarchiste n'est pas morte il y a 100 ans, hein. Elle est toujours vivante. Et,
la preuve, il y a des autrices et des auteurs.
Bah ouais, non mais c'est bien de le rappeler quoi. Et évidemment, le prochain rendez-vous, hein, c'est donc dimanche prochain, 22h, la Causerie.
Ça ne se rate pas.
Bah évidemment, comment on pourrait faire pour rater ça? Enfin bon, je ne sais pas. Eh bien, on peut déjà aussi remercier Clara pour la technique.
Mais de rien.
Toujours très bien, merci. Non mais ça rehausse le niveau de la présentation, tu vois, qu'au moins la technique soit bonne.
Le reste peut être mauvais.
Et merci à Anne d'être venue et d'avoir partagé et là au micro et sur le blog ta recherche et tout ça. Vraiment, merci beaucoup.
De rien.
Et bah, c'est toi qui vas aussi annoncer le dernier titre, enfin.
Oui.
Bah oui, parce que c'est toi qui l'as choisi.
Oui, c'est vrai. tous. Oui, alors le dernier titre que j'ai choisi s'appelle Weightless de Marconi Union. Et je précise, c'est une chanson qui a été considérée après deux études scientifiques, bon, un peu influencées par la marque qui a payé pour faire ses études, mais voilà, comme une musique qui était extrêmement détendante, voire même la plus détendante qu'on puisse faire, parce qu'elle a été fabriquée en collaboration avec une personne qui crée des sons thérapeutiques. Donc il est déconseillé, même si je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais il est déconseillé de conduire si vous écoutez cette musique.
Donc arrêtez-vous sur le bord de la route.
Voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir des musiques qui vous auront détendu, et aussi celle-ci, si vous êtes stressé, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Voilà.
Et si vous êtes très stressé, il existe une version longue de 31 minutes.
Oui.
Parce que celle-là va faire 8 minutes quand même.
Donc on vous laisse avec cette musique reposante et on vous souhaite une bonne semaine à venir. Bon courage à toutes et à tous. Et encore merci Anne.
Et à bientôt.
Et à bientôt.
Salut, salut.
Ciao.
Des bisous.
Ciao.
Merci.
génération.
J'ai la barbe de la chaîne.
Partout je traîne.
J'ai la barbe de